Hello tout le monde, je suis Edouard Bonamour et vous écoutez le podcast de Perds pas ma page, un podcast qui vous fait découvrir la bibliothèque idéale des artistes que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Avant de commencer, n'oubliez pas de prendre quelques secondes pour noter le podcast, des étoiles sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast, c'est une aide précieuse pour moi. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la chanteuse Clou, que vous avez sûrement déjà entendue grâce notamment à ce titre.
Le faux comme une flèche qu'on décoche, blesse ceux qui tenteraient une approche, mais jusqu'ici tout va bien.
Mais aussi ce titre.
Je veux vivre comme au cinéma, en plan américain avec la musique qui marque mes.
Clou n'est pas que compositrice, chanteuse et musicienne, elle est aujourd'hui autrice. Son premier livre, ou plutôt son premier recueil de poèmes, est intitulé « Doux maudit », qui est, comme le dit le surtitre, un voyage au cœur de son adolescence. Des poèmes qui parlent des relations tendues avec ses parents, des premiers amours pas faciles à gérer et la découverte de la musique grâce à la flûte. Un très joli recueil où chaque poème est accompagné d'une illustration dessinée par Clou elle-même. Doux maudit est disponible le 26 avril aux éditions Rajo. Perds pas ma page, épisode 26, c'est parti. Bonjour Clou.
Bonjour Edouard.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait hyper plaisir de te rencontrer. Je te rappelle juste en deux mots le principe du podcast. Tu m'as donné trois titres de livres, trois titres que tu as particulièrement aimés dans ta vie et... tu vas m'en parler pour me donner envie de les lire, pas du tout, faire une étude de texte, pas du tout, bah j'aimerais bien.
Bah merde alors, j'ai préparé des fiches de lecture.
Ah t'as des fiches,
mais bien sûr.
Si tu veux sortir tes fiches, moi ça me va.
Non
mais
pas du tout, rien du tout.
Non, pas d'études de texte, pas de stress, on est là pour en parler de manière vraiment à la cool. On a Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, on a Martin Eden de Jack London, ça je suis trop content, on a Mathilda de Roald Dahl aussi.
Ouais.
Tu veux commencer par lequel?
Ah je sais pas, comme tu veux. Bah, le premier c'est bien.
Les Trois Mousquetaires?
Ouais.
Ok. Bon, Les Trois Mousquetaires, est-ce qu'on a encore besoin de présenter Les Trois Mousquetaires?
Bah non, je pense pas. Hein, enfin, peut-être, mais c'est un roman d'aventure incroyable de cap et d'épée, écrit par Dumas. Et moi, ce livre a été fondamental parce que... Alors, je lisais quand j'étais petite, mais je lisais Le Club des Cinq, je lisais des livres pour enfants. Ouais. Et puis, mes parents m'ont offert dans la collection bouquins. Tu vois la collection bouquins?
Non, je suis pas sûr de voir.
C'est une collection, ça ressemble à un pavé, c'est en papier bible presque.
Ok, génial.
Tu vois, donc c'est un truc énorme. Donc il y avait Les Trois Mousquetaires et 20 ans après, collé. Okay. Donc c'était un truc qui faisait 1000 pages, hyper lourd, le pavé, tu vois.
Ils t'ont offert, t'étais jeune?
J'avais, je sais pas, j'étais au collège et c'était un été, juste avant l'été, c'était mon livre de l'été.
Ok.
Et donc, je sais pas, collège t'as quoi? T'as 10 ans, 11 ans, 9 ans?
Collège t'as entre 11 et 14 ans.
11 et 14 ans.
11 ans en 6e et ouais, 14 ans en 3e.
Et ben c'était exactement cette période-là. Et je me suis plongée dans Les Trois Mousquetaires et ça a été, je crois, donc le premier livre de littérature adulte que j'ai lu.
Ok.
Et je n'ai pas lâché le livre des vacances. J'étais sur la plage, j'ai encore donc ce livre-là, cette version-là. Il y a des petits grains de sable dans les pages. J'avais arraché une fleur que j'avais mise dans un papier, comment ça s'appelle, un sopalin, là, pour la sécher. Il y a un petit mot que j'avais mis où je vais au centre commercial, gros bisous, c'était mon marque-page.
T'as gardé tout ça dans le bouquin?
J'ai tout gardé dans le livre.
Génial.
Et ça a été un livre que je lisais à la piscine. J'étais une enfant hyper solitaire, donc j'étais dans mon livre. Et je lisais donc ce truc énorme.
Et qu'est-ce qui te fascinait alors?
L'histoire est dingue.
Ouais.
L'humour, le rythme, c'est ultra rythmé.
Ouais.
Et puis il y a une passion amoureuse derrière que je trouvais magnifique. Et puis surtout la méchante, elle est réussie. Et puis c'est une méchante.
Ouais, ouais.
C'est pas méchante. Souvent quand même.
C'est clair.
C'est souvent des grands méchants, c'est toujours des gars. Et là c'est une femme, elle est sublime et elle est méchante. Et ça termine mal pour elle. Voilà.
C'est marrant parce que j'ai enregistré un épisode du podcast avec Eric Emmanuel Schmitt.
Ouais.
Qui m'avait aussi donné Les Trois Mousquetaires comme bouquin qu'il avait adoré parce qu'il me disait que lui aussi était assez solitaire quand il était plus jeune, etc. Et qu'il avait vraiment l'impression, on est tous pareils, de la solitude qui nous réunit finalement. Et il m'avait dit que lui, c'était en gros, c'était, il avait vécu ça comme, comme si ces, ces gars-là étaient ses amis, quoi.
Ah ouais.
Qu'il y avait un truc, un vrai lien qui s'était créé avec ces personnages-là. Et c'est vrai, je trouve que quand tu lis Dumas, c'est tellement prenant. Tu peux visualiser ces personnages-là, quoi.
Ouais,
ça, je trouvais ça fascinant.
Et c'est accessible.
Ouais.
C'est aussi ça qui est fou, c'est que c'est vraiment de la littérature, c'est de la belle littérature.
Ouais.
Et ça se lit, quel que soit ton bagage, quel que soit ta, ton rapport à la littérature. Mmh. Si t'as un rapport compliqué, t'as du mal à lire les phrases longues avec des mots complexes, etc. Chez Dumas, il n'y a pas ça. Chez Dumas, c'est ultra simple. C'est ouais. l'anti-snobisme, c'est la littérature pour tous. Et c'est aussi une histoire qui est... Enfin, tu peux t'identifier... T'as tellement de personnages différents. Tous les personnages secondaires sont presque meilleurs que le personnage principal.
C'est clair.
On a tous, enfin je sais pas, on correspond tous à un des personnages de l'histoire. Mmh. Et puis ça peut correspondre à des périodes de la vie, à des moments où on est un peu Athos, et puis des moments où on est un peu D'Artagnan, et puis des moments où on est un peu plus Aramis, comme ça. Et puis on a tous envie d'être Porthos aussi, tu vois. Et Milady de Winter, j'espère que j'ai jamais été Milady de Winter, mais peut-être un jour.
Ouais.
Peut-être.
Mais ça aurait de la gueule quelque part.
Peut-être. Et j'ai pas envie d'être Constance Bonacieux, parce que quand même elle meurt d'une manière un peu triste. Mais elle meurt avec... tellement de, d'amour pour D'Artagnan et en même temps elle meurt, c'est quand même un amour très pur, mais elle est mariée, tu vois.
Mmh.
Enfin,
c'est
y a
quand même très beau, hein.
C'est hyper beau.
Mmh. Et toi, ton rapport à la littérature, c'était quoi alors, du coup, quand t'étais plus jeune?
Alors c'était
avant
un rapport,
avant qu'on en arrive justement ouais. à Dumaudit.
C'est un rapport un peu de refuge, comme beaucoup d'enfants solitaires. Mmh. Et moi, j'avais des parents un peu durs qui autorisaient la littérature et qui encourageaient très très fort la lecture, donc c'était vraiment un loisir autorisé. Contrairement à la télé qui était un peu méprisée, donc et la musique aussi c'était encouragé, mais pareil c'était censé être un loisir un peu, je sais pas comment dire, un peu léger, alors que la littérature c'était forcément bien,
okay.
quoi qu'on lise. Et donc déjà j'étais complètement décomplexée par rapport à ça. Mes parents avaient une superbe bibliothèque dans laquelle il y avait de tout et donc je pouvais piocher un peu ce que je voulais. Et puis j'étais très solitaire comme enfant et donc très timide, très réservée, tu vois.
Ça te faisait du bien de.
Bah ça
de
me
te
donnait. Bah ouais, il y avait un monde qui s'ouvrait à moi à chaque fois que j'ouvrais une page. Et puis je me suis rendu compte en vieillissant, donc au collège ou au lycée, de temps en temps ça m'apportait aussi un savoir que d'autres n'avaient pas sur des sujets de conversation. Et je me disais, ah ouais, mais ça c'est parce que j'ai lu ça. Et tu sais pas ça, tu l'as pas lu ce livre? Ah d'accord. Et
du coup, est-ce que t'étais ouais. encore plus seule parce que les gens se disaient « elle nous saoule à nous lecture
». Exactement,
c'est ça.
Exactement
ça. A alimenté la solitude, quel enfer cette histoire.
Non, j'ai longtemps caché ça en fait, je ouais. faisais pas du tout publicité de ce que je lisais. Ou... Non, c'était plutôt c'était solitaire, vraiment.
Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire justement ce recueil de poèmes? C'était une erreur.
Je sais pas ce qui s'est passé.
Non, c'est un hasard complet.
C'est un hasard.
Parce que je me suis posé. Donc, Dumaudit, c'est donc ton recueil de poèmes que tu as aussi illustré.
Ouais.
Hyper beau d'ailleurs.
C'est vrai, merci.
Ouais, vraiment hyper beau.
Merci
et tu te racontes en fait. Non, est-ce que
ouais, vachement.
On est d'accord? C'est hyper.
Très
c'est
personnel.
Autobiographique, très personnel. On a presque l'impression que c'est. Certains ont été récupérés dans ton journal intime, non? Ou ta première
drôle.
Chanson, par exemple?
Bah ça, c'est ma vraie première
c'est
chanson.
Ta vraie première chanson sur la
ouais.
vache folle.
J'ai okay. pas besoin de. Je la connais par cœur depuis toujours. J'ai pas besoin de chercher dans un journal.
C'est vrai. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? T'avais envie de.
Attends, c'est une vraie bonne question et il faudrait que je puisse trouver une bonne réponse. Je discutais il y a pas très longtemps avec une amie chanteuse et elle me. Quand je lui ai dit que j'allais sortir un livre, elle m'a dit mais je le savais. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a tous en soi un livre qu'on a envie d'écrire. Et il y en a qui l'écrivent parce qu'ils ont l'énergie de le faire, le temps aussi. Et puis d'autres qui n'écrivent pas leur livre, mais on a tous en soi ce petit feu de littérature. Et donc je pense que ce livre, c'était très simple parce que c'est mon histoire, romancée par moments. Je ne raconte pas forcément tout. Heureusement. Pour le lecteur, que je raconte pas tout, mais je raconte quand même une bonne partie, et je pense que c'était une histoire que j'avais en moi depuis longtemps.
Ouais.
Voilà. Et en plus, quand mon éditeur m'a contacté, Rajo, ils m'ont dit « t'as carte blanche, il faut juste que tu saches que c'est pour des adolescents ».
Mais tu savais donc, déjà que ce serait sous forme de poème?
Pas du tout.
Ah
ils
non,
m'ont, okay. En fait, ils m'ont dit en vers... Enfin, ils m'ont entendu à la radio.
Okay.
Et ils trouvaient que j'avais une écriture, enfin quelque chose. Et donc... quand ils m'ont contacté, ils m'ont dit on a envie de faire quelque chose en vers libre, mais si t'as pas envie de faire ça, on est ouvert. Et puis on voit, enfin voilà, envoie-nous une première version de quelque chose et on voit où on va, et le thème est libre. Okay. Et je me suis dit, mais je vais pas m'en sortir. J'avais envie de raconter plein de choses différentes. Et en fait, je me suis souvenue juste que le thème qui venait en premier, c'était la libération de la parole et le poids des mots.
Okay.
Pour moi, les mots, ils ont une importance énorme. Et ils ont changé ma vie, vraiment. Et les mots sont tout le temps chargés. Et donc, les mots que j'entends de la part de quelqu'un, je vais le prendre vraiment dans son sens total. Et j'avais envie de parler de ça, du poids des mots. Et de ce que ça peut faire ou défaire dans ta vie, à une période où tu te construis.
Tu parlais beaucoup de ta solitude quand tu étais jeune, etc. C'est parfois un peu dark, comme peut l'être
complètement.
Beaucoup d'adolescents.
Ah oui, c'est pas très joyeux. Ouais.
Dans la relation que tu as avec tes parents, avec ton père notamment.
Est une personne merveilleuse et délicieuse.
J'ai l'impression. Non, mais il y a un... Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais celui où tu parles en gros de... C'est ton amour de jeunesse et puis tu te rends compte qu'il t'offre un cadeau qui en fait n'a aucun sens par rapport à ce que tu es toi, et que tu te rends compte qu'en fait il y a quelque chose qui s'est brisé un petit peu.
On n'a pas tous vécu ça.
Bah si, on a un peu tous vécu ça, mais...
Ce cadeau
pourri. Moi, j'étais plus dans la position où j'avais envie que la personne en face me regarde et en fait ne me regardait pas.
Ah.
Ou, tu vois, c'était
plus ça. Ah.
Et puis cette position-là,
c'est pas la même.
Ça arrive à plein de gens aussi, en fait.
Mais oui, évidemment.
Mais non, il y a plein de choses comme ça qui sont assez douloureuses, en fait.
Ouais.
Douloureuses. Des choses douloureuses, plutôt.
Oui, tout à fait.
Et...
Mais c'est parce que, enfin, moi, quand j'étais ado... ce que j'aimais lire aussi, par exemple, même dans Les Trois Mousquetaires, j'aimais lire la... C'est affreux ce que je vais dire. La mort de Milady de Winter.
Ouais.
Je l'ai lu plusieurs fois, ce chapitre-là, où elle meurt. Et ça me saisissait, ça me glaçait le sang, je me sentais complètement vivante en lisant ça. Je me disais, mais c'est affreux, quoi. Et en fait, j'avais très envie qu'on me raconte la vérité de ce que c'est qu'être vivant et de souffrir. Et donc quand j'ai commencé à écrire, je me disais aussi qu'il fallait que je sois sincère et que je raconte quelque chose qui s'est vraiment passé et que j'aurais, je pense, aimé lire à cet âge-là. Donc, pas enjoliver les choses, mettre un peu de lumière, oui, bien sûr, mais raconter aussi les vraies douleurs et les vraies souffrances que tu as à cette époque-là. Et moi, ça a été une époque où, oui, il y a eu vachement de souffrances et il y avait un rapport à la famille qui était complexe, qui était douloureux, qui était... c'était jamais simple, quoi. Toujours un truc lourd dans la baraque, chaque soir. Et puis, ça laisse des traces sur la vie entière. Donc, ça me semblait important d'en parler et de ne pas dire c'était super.
Et ça t'a fait du bien aussi de l'illustrer ?
Ouais, putain, mais ça, c'était fou. Ça, c'était fou. les éditrices donc, de Rajo m'ont dit « Si t'as envie, tu peux peut-être illustrer un ou deux poèmes. » Je me suis dit, mais je dessine un peu, mais je ne sais pas si je suis capable d'illustrer.
Mais ils savaient que tu dessinais
ou... Oui, ils savaient, okay, mais okay. Moi, je fais quelques dessins qui sont dans mon album, où tu peux voir sur Instagram, par exemple, je dessine beaucoup, mais c'est un dessin amateur et c'est un dessin plus frénétique qu'un dessin appliqué. Et c'était un super challenge, en fait, de se dire, je vais essayer de faire deux, trois illustrations, puis si ça le fait, ça le fait. Et elles m'ont répondu avec tellement d'enthousiasme que je me suis lancée dans un dessin par poème, quoi. J'ai vachement progressé en dessin. Donc, je peux te dire ce que j'ai fait au début, ce que j'ai fait à la fin. Ouais. Ouais. Mais bon, tu vois, c'était chouette aussi d'exprimer d'une autre manière ce qu'il y avait dans la poésie. Et c'est pas tout le temps une illustration du poème. Tu vois, parfois, c'est un truc un peu plus
c'est
abstrait.
Un truc en plus, je trouve, ça lui donne un... Ça le rend, ça donne un poème en trois dimensions un petit peu, tu vois.
Je vais l'utiliser, ça, tu sais.
Non, il faut pas. Je suis pas sûr qu'il faille.
Ça donne un poème. Non, mais je te promets, je vais l'utiliser.
Génial. On passe au deuxième livre. On garde Martin Eden pour la fin. On va parler de Mathilda.
Ok. D'accord. Très bien.
Parce que, en plus, comme on parlait là de ton livre et que Mathilda. Parle quand même un peu de l'enfance.
Ouais.
Mathilda, pour ceux qui l'ont pas lu, tu veux raconter à nouveau ou pas? Mais
c'est
fille, Mathilda, une jeune fille qui a, je sais même plus, elle a 5 ans, tu vois, elle est toute jeune. Elle est surdouée, Mathilda, et elle est entourée par des gens qui sont.
Famille Groseille.
Ouais, vraiment, c'est difficile pour elle. Et en fait, elle est tellement géniale qu'elle va avoir des pouvoirs qui vont lui permettre, en gros, de se venger. c'est un peu l'idée du livre, quoi. C'est hyper cruel, Mathilda, quand
c'est
on y
hyper
pense.
Cruel.
C'est hyper cruel. Mais il y a un peu un lien avec ton livre, quelque part.
Mais...
Tu vois.
Ah ouais. Ah ouais, c'est...
Pourquoi tu l'as choisi, du coup? Est-ce que c'est pour ça ou pas du tout?
Mathilda, c'est un peu la petite fille que j'aurais voulu être. En fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais c'est moi. C'est moi et elle, elle a des super pouvoirs et pas moi. Mais elle tisse un... En fait, elle n'aime pas ses parents. C'est quand même un personnage pour enfant qui n'aime pas ses parents. Mmh. Faut quand même être assez audacieux pour écrire ça.
C'est clair.
Et
ça a été vachement reproché d'ailleurs, il paraît, à Roald Dahl.
C'est vrai?
Bah ouais, parce qu'elle utilise quand même ses pouvoirs
pour leur faire un petit peu
pour
de
leur
mal.
Faire du mal.
Ouais, bien sûr.
Ce qui était...
Oh, je trouve ça génial.
Ah ouais. Il y a un côté hyper libérateur, tu sais, de se dire.
C'est libérateur et puis c'est... Alors, effectivement, c'est pas politiquement correct, mais la vie, elle est vraiment comme ça aussi. Il y a des moments où on a besoin de se défendre comme ça. Il y a quelque chose d'un peu cathartique de lire un personnage qui se venge un petit peu, et qui se venge un peu pour tous les enfants malheureux.
Ouais.
Voilà. Et elle s'en sort, elle a des pouvoirs. En même temps, il y a des personnages cruels, genre il y a une gouvernante ou une surveillante qui s'appelle, j'ai oublié, qui est horrible, qui est violente. Ça aussi, dans les livres pour enfants, on n'en parle pas trop souvent, de la violence qu'il y a à l'école. Mais on souffre aussi beaucoup de ça. Et après, elle tisse un lien avec quelqu'un qui va devenir sa mère spirituelle, ou sa mère, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui est
son institutrice.
Ouais. Et elles vont partager ensemble l'amour des livres, et ça, je trouve ça très, très beau. Que la famille choisie soit la famille avec laquelle tu finis ta vie, ou tu continues ta vie.
Mais justement, pour en revenir à ton livre, ça, c'était de parler de tes parents juste de cette manière-là, c'était... T'en avais besoin, c'était... Non, mais parce que c'est vrai.
Oh, putain, ouais, bien sûr. je sais pas si j'en avais besoin parce que je l'ai fait plein de fois et j'ai fait ma thérapie, j'allais dire, et donc c'est passé tout ça. Mais je t'ai dit, une fois que je m'étais décidée sur le thème et sur le fait de parler de mon adolescence, j'étais obligée de parler de ça.
Ouais.
Et puis, ce qui était intéressant aussi en écrivant, c'est que je me suis rendu compte que j'étais plus proche de ma mère que ce que je pensais. Ça, je m'en étais pas forcément rendu compte en grandissant. Et puis, je mets quand même des... Oh, je sais pas. C'est une manière d'analyser, quoi. D'essayer de revoir un petit peu avec un filtre et de se dire, bon, bah voilà, ça s'est passé comme ça. C'était pas si terrible. Ça, c'était quand même affreux. Mais ça, c'était cool. Il y a des choses drôles aussi, à voir avec le recul. Donc, c'est ça qui est bien aussi dans Mathilda, c'est que c'est hyper drôle.
Et l'écriture... Du poème comme ça, le livre, ça a été vraiment différent que l'écriture des chansons.
C'est très proche. C'est très proche, donc c'est un exercice qui m'est venu très naturellement.
Même dans ce que ça t'a apporté à toi, je veux dire.
Oui, après, la différence quand même, c'est qu'on n'est pas tenu par une limite de temps.
Ouais.
Donc j'ai un peu tartiné par moment. J'avoue,
ça se sent.
Je l'avoue. Non, mais il y en a qui sont très longs, des poèmes. Et puis, il y a une vraie liberté. Tout d'un coup, tu peux te dire, mais je vais faire une phrase très longue. Et puis pas de rime obligatoire.
Ouais.
Alors que moi, dans mes chansons, j'écris de manière classique, j'allais dire. Et donc, ça rime.
Ouais.
Et les pieds sont comptés. Et voilà.
Mais t'as pris
le refrain.
J'imagine que c'est pas le même plaisir du tout, alors quand même.
Non, il y a une liberté qui est différente.
Ouais.
Je trouve que c'est beaucoup plus libre d'écrire comme ça. Il
n'y
a pas la contrainte de la mélodie, il n'y a pas la contrainte de tenir sur un temps très court. Et il y a moins de contraintes aussi de sonorité. Il y en a une, évidemment, mais elle est beaucoup moins forte.
Ouais. Est-ce qu'on peut écouter une de tes chansons, justement?
Ah, mais bien sûr, avec plaisir.
J'adore Cesse.
Ok.
Est-ce que tu peux me raconter un peu comment elle t'est venue, cette chanson?
Cesse, c'est la seule chanson d'amour de mon premier album.
Ouais.
C'est la chanson que j'ai écrite, c'est après une rupture amoureuse avec un amoureux avec qui je suis restée 13 ans. Tu vois, je suis restée longtemps avec
quand
cette
même.
Personne.
Ouais.
Et c'est la personne qui a été...
Est-ce que c'est le même dont tu parles dans le livre?
Non,
ou
pas du tout.
Okay.
Ça, c'est mon amour de lycée.
Nathan.
Voilà, Nathan. Mais non, après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre.
Okay.
Et je suis restée longtemps avec cette personne. Et c'est la personne qui m'a le plus. Qui m'a un peu sauvée de cette enfance-là, qui m'a encouragée à faire de la musique aussi. Qui m'a dit à une époque où c'était compliqué pour moi de me dire: mais qu'est-ce que tu fais là? Ton rêve, c'est ça? Pourquoi tu le fais pas? Ah bon, mais tu crois que je peux? Mais bien sûr, tu peux. Je vais t'aider, je vais t'accompagner, etc. Et il a toujours été là pour moi, il est toujours dans ma vie, il fait partie de... C'est un peu ma famille maintenant. Et donc cette rupture-là, elle était douloureuse. Et je trouvais que la journée, j'étais vachement bravache. Je faisais plein de trucs. Ouais, je vais sortir un album, tu vois. Il se passe des trucs et tout. Et la nuit, je passais mon temps à penser à lui, à me dire, mais en fait, je gâche tout. Pourquoi il est plus là? Et je trouvais qu'il y avait une vraie différence entre dès que le soleil se couchait. Mmh. Mon cerveau, il switchait et je devenais triste, en fait.
Ouais.
Et donc, cette chanson, c'est ça.
C'est beau. On écoute 16-16.
Le jour, je fais des efforts. Hélas, quand la ville dort, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour je bats les records, mais quand change le décor, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Le jour je suis matador, hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore. Hélas quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Ah, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi.
On va terminer avec le dernier livre dont tu...
Qui est important pour toi aussi, j'ai l'impression.
Ben, j'adore ce livre, je sais pas pourquoi, il m'a énormément marqué. Je pense que si on me demandait de faire un top 10,
chaud.
Ce qui serait impossible à faire, mais quand même, je pense qu'il y ferait partie parce que j'adore ce livre. C'est donc Martin Eden de Jack London, mm-hmm. qui raconte l'histoire de Martin, qui est un...
De Jack.
De Jack, en fait, ouais. Qui est un marin très très pauvre, très rustre, qui a une vie compliquée, qui un jour défend un jeune homme dans la rue. Il se trouve que ce jeune homme vient de la bourgeoisie. Il l'invite un jour chez lui. Il rencontre la sœur de ce jeune homme et il tombe follement amoureux. Et voilà, c'est tout. C'est l'ascension sociale, la volonté d'être écrivain, mais l'échec, voilà, et ça va se finir tragiquement, on ne va pas spoiler la fin, mais c'est vraiment très beau. C'est un livre, je ne sais pas pourquoi ce personnage, moi, il m'a énormément marqué.
Ouais, bah parce que tu as un rapport à la littérature particulier.
Ouais, peut-être, puis je trouve ça beau, le tragique de cette histoire, de ce garçon qui est fou amoureux, qui en même temps est porté par la littérature, mais n'arrive pas à atteindre son rêve. Il y a un truc très, très beau, quoi.
Il y arrive quand même.
Ouais, il y arrive
au moment où il met son manteau au clou. Ouais. Je me souviens très bien de ce passage-là. J'étais, mais je suis dans le livre de Jack London. Et j'ai trouvé ça fou que la traduction, ils aient gardé ça comme ça, mais bon.
Ouais.
Mais oui, c'est l'histoire de quelqu'un qui transcende complètement sa vie et qui décide d'un transfuge de classe qui tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup d'ailleurs, c'est un chemin qui a toujours voulu changer de milieu social, qui se rend compte de tout ce qu'il doit emmagasiner, apprendre, comprendre en termes de vocabulaire, de tenue, de posture, de bienséance, enfin toutes les règles qu'il doit apprendre, et il le fait. Et il le fait avec volonté, et il le fait avec un objectif qui n'est pas forcément précis, je dirais. C'est vraiment plutôt un genre, ma vie, je voudrais qu'elle soit meilleure.
Mmh.
Et puis aussi par amour. Ça, c'est quand même très, très beau.
C'est beau, ouais.
Parce qu'il est vraiment amoureux, mais il est amoureux de quelqu'un qui ne lui correspond pas. Et ça aussi, je trouve ça assez magnifique de se dire, son grand amour, ça peut être aussi quelqu'un qui ne vous correspond pas.
Ouais.
Et lui, son grand amour, c'est vraiment quelqu'un qui ne lui correspond pas du tout. Enfin, un petit peu, mais qui ne le comprend pas. Et son rêve, c'est d'être écrivain. Et qu'est-ce qu'il fait pour être écrivain? Bah, il écrit. il n'a pas d'argent, il doit travailler, et il travaille, il fait un des jobs les plus durs au monde, il est marin. Mais il continue à écrire, dès qu'il rentre, il écrit, dès qu'il a un peu de sous, il va s'acheter du papier, de l'encre, de machin et tout, et il envoie des éditeurs qui lui renvoient ses manuscrits, et jusqu'au dernier moment, et c'est l'histoire de Jack London, c'est très autobiographique, pas la fin évidemment, mais tout le début c'est ça, c'est son histoire à lui. Et moi, j'ai toujours trouvé ça... Enfin, moi, quand je l'ai lu à une période où je venais de démissionner. Toutes proportions gardées, ça n'a rien à voir avec Jack. Mais évidemment que je me suis projetée. Je me suis dit, mais il l'a fait, c'est Martin Eden. Et en fait, ce livre, il donne tellement de force.
Ouais.
Quand on a un objectif, qui est un objectif artistique, créatif, et quand en plus, on a un rapport à la littérature qui est particulier, ce qui était mon cas, ce qui est toujours mon cas, je trouvais que c'était plein d'espoir.
Ouais.
Et c'est un peu un livre qui te dit va au bout de tes rêves, peut-être que tu vas finir pas super bien, mais t'as qu'une seule vie et il faut que ça vibre dans tous les sens. Mmh.
Et puis ce personnage est tellement pur en plus quelque part. Ça pourrait être un personnage de Dumas, tu vois, ces gars qui sont entiers. C'est un exemple je trouve, tu vois, quelque part Martin Eden, effectivement, il se bat pour ses rêves, mais il va pas y arriver en étant mesquin ou...
C'est vrai qu'il est très droit, il est très digne.
Il est droit, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelque chose de... Et en même temps, tu sens la solidité, tu sens qu'il est ancré dans le sol. C'est un travailleur.
Ouais.
Et jusqu'au bout, c'est un travailleur. Même quand il a commencé à avoir du succès en littérature, il ne s'arrête pas. Je veux dire, il écrit en permanence et il propose tout le temps des nouveaux romans. Et ça, c'est aussi un peu le secret de quand on veut faire ce genre de métier-là. Il faut pas s'arrêter, quoi. Il faut proposer des choses, mais il faut pas s'arrêter non pas parce que on nous a dit qu'il fallait pas s'arrêter, il faut pas s'arrêter parce qu'en fait on a toujours quelque chose à raconter. Et lui, il avait toujours des trucs à raconter, des trucs, des histoires.
C'est pas grave, on ne t'en tiendra pas rigueur.
Je l'ai pris à Martin Eden, j'ai pris ma...
Tu l'as, c'est vrai?
Ouais, j'ai ma version. Normalement il y a mon nom dans les livres, mais là je crois que j'ai même pas eu besoin de le mettre tellement c'était à moi. Et donc moi je corne les pages. Et après, je note les citations dans un carnet de citations.
Ok.
Et après, je fais aussi des listes de livres que j'ai lus avec des dates. Comme ça, je me souviens à quelle époque j'ai lu tel livre.
Moi, je fais ça par année.
Voilà, donc ouais. Nous sommes des personnes très dangereuses, pour le genre humain. Mais donc, c'est super. Et normalement, après, je décorne parce que j'aime pas abîmer les livres. Mais dans le cas de Martin Eden, je l'ai jamais décorné parce que quand je le réouvre, j'aime bien regarder ce que j'ai choisi, quoi. Voilà.
Quand tu tombes sur la page, tu sais tout de suite pourquoi tu l'as gardé.
Alors, il faut que je relise et souvent, je retrouve très vite, ouais. Je sais pas très bien lire à voix haute. Faut que j'apprenne. Toutefois, malgré tous leurs défauts, ces premières tentatives étaient loin d'être médiocres. Elles avaient la gaucherie du néophyte qui veut trop en faire, qui croit attraper des papillons avec des battoirs et enfonce le clou avec une masse d'armes. Martin s'estima donc heureux de vendre ses textes pour une bouchée de pain. Oui, c'est merveilleux. Et en plus, il y a un truc un peu de lutte des classes tout le temps chez Jack London, que moi j'adorais quand j'étais petite aussi.
Ouais, ouais.
Je trouve qu'il y avait un truc, quand j'étais petite, toute ma vie.
Hyper intéressant.
Toujours politique. Quoi qu'ils disent, c'est politique. Et je trouve ça très très fort.
Est-ce que tu lis encore beaucoup?
J'essaye, ouais. Oui, toujours. C'est un merveilleux refuge, mais je me diversifie en vieillissant. J'ai toujours lu des romans comme une dingue.
Ouais.
Et maintenant, j'essaye de lire de manière un peu plus large. Donc, j'essaye de lire de la philo, même si je ne comprends pas tout. J'essaye de lire des essais. Moi, j'avoue, je ne comprends pas tout non plus. J'essaye de lire des biographies. Mais en fait, je reviens tout le temps aux romans.
Merci, Clou. Il me reste
deux
choses à te demander.
Ah.
D'abord, je vais te faire un questionnaire pivot.
Mon Dieu.
Bernard Pivot qui faisait ça dans son émission apostrophe.
Ok, super. Mais c'est le questionnaire de Proust.
Exactement.
Oh là là.
T'es prête ou pas?
Non, pas du tout.
Mais si, va voir, c'est facile.
Pour être prêt.
Est-ce que tu saurais me dire quelle est ta Madeleine de Proust?
Alors tu sais que c'est pas une Madeleine au départ. Le premier jet de Proust, c'était du pain imbibé de thé.
Ah ouais.
Tu vois?
Ouais.
Donc la Madeleine, hein. ma Madeleine de Proust... Donc quelque chose qui me rappelle l'enfance et qui est chouette,
ouais.
Je dirais l'odeur, la poussière des livres. Tu sais, les livres qui sentent très fort la poussière.
Ouais.
Voilà.
Ok. Le plus bel endroit que tu as vu dans ta vie?
Waouh, c'est dur. Je dirais quand même... Oh là là. Je suis allée en Chine en 2010. Et j'ai une passion pour la Chine qui s'estompe un petit peu avec les années parce que la Chine, quoi. Mais bon, ce pays me fascine, la littérature aussi chinoise me fascine.
Okay.
Et donc, quand même, j'ai vu la Grande Muraille de Chine et j'ai gravi la Grande Muraille et ça me reste encore bien en tête.
Ouais. Je comprends.
Même si j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et qu'il pleuvait et tout ça.
Mais ah ouais, moi je l'ai vu sous un cagnard. Il faisait très très chaud, mais c'est quand même frappant quand tu la vois. Quoi.
Ah, quelque
chose de surréaliste.
T'as l'impression d'être sur quelque chose d'historique.
Ouais, ouais.
Plus que n'importe quoi d'autre.
Ouais,
c'est complètement faux.
Mmh. C'est un anglicisme, mais ta shame song favorite.
C'est une chanson de... Attends, c'est hyper facile. C'est une chanson de... Elle est shame et pas shame. Attends, à chaque fois je me trompe de prénom. Moi, si j'étais un homme, de...
Ah,
Tiantel, je crois.
Ouais, c'est ça, non?
Tiantel.
Ouais. Ok.
Bah voilà.
Bon, c'est pas une shame song?
C'est un peu une shame song.
Ok.
Un peu quand même. Mais sinon, attends, tu veux une autre shame song?
Non, non, mais
j'en ai plein, j'en ai plein. Je veux dire, j'aime plein de trucs le shame. Ouais, ouais.
La matière que tu as détestée, étudie.
La techno. Tu te souviens de la techno?
Quand tu devais faire des règles en plastique et tout, là?
Ah, non, tu dégradais. Alors que j'adore les trucs manuels. Mais la techno, les circuits électriques, là, l'ennui mortel de ce cours.
Je ne sais même pas exactement pourquoi. Enfin, si, c'est vachement bien d'apprendre. Ouais, si, c'est
mais
bien.
Mais si. Mais je ne sais pas, c'était d'un ennui pas croyable, quoi.
Ouais, 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 je suis assez d'accord. Ton insulte favorite?
Je suis anti-insulte, en fait, c'est un peu le problème. Je suis anti-gros. Enfin, pas anti-gros mots, mais je suis anti. Je supporte pas trop les insultes. Donc, c'est dur. J'en ai pas. Favorite, j'en ai pas.
T'en as pas?
Non. J'aime pas les gens qui insultent. Tu vois, le poids des mots.
Ouais.
Pour moi, ça dit toujours quelque chose de beaucoup trop. C'est beaucoup trop violent, quoi. T'as vu?
Ouais.
On commence la thérapie.
C'est
là.
Bien.
Ouais.
L'endroit le plus insolite pour faire l'amour.
Que j'ai fait? Non,
bah,
tout court.
Tu veux, je...
Ah, je ne sais pas. Le plus insolite, tous les endroits sont insolites, mais j'en sais rien. Dehors, c'est vraiment insolite, quoi qu'il se passe. Mais je pourrais dire la plage, quand même. La plage, ça a l'air super sur le papier, mais en fait...
Ça peut être très désagréable.
C'est pas ouf.
Ta drogue favorite?
Le café.
Un métier que tu aurais adoré faire?
Ah ouais, c'est super intéressant. Un métier que j'aurais adoré faire. Un truc très manuel, genre plombier.
Ouais.
Je pense que j'aurais kiffé, en fait. Parce que, j'aimerais bien comprendre comment ça marche. À chaque fois, je me sens dépassée par la complexité de la tuyauterie. Et je suis assez
science.
Fascinée par cette capacité qu'ont les plombiers ou les plombières à arriver chez toi et à faire... Oh bah c'est le je sais pas quoi.
Alors que toi t'es en galère.
Toi t'es là mais mon parquet il est foutu ou ouais. Tu vois ou genre. Et c'est des choses hyper simples et je comprends pas qu'on apprenne pas ça à l'école. Mais je pense j'aurais beaucoup aimé apprendre ça à l'école. Plutôt que de
la techno.
les basiques de la plomberie. Ouais. Tu l'as pas vu venir
non,
celle-là.
Non pas du tout. Et une dernière question. Ta qualité préférée chez une personne?
L'humour.
Super. Pour finir. Clou, j'ai toujours pour habitude d'offrir un livre moi aussi à la personne que je rencontre. Alors tu vas être super contente parce que c'est un gros livre et t'as un petit sac, mais je viens de le finir et c'est Connemara de Nicolas Mathieu.
Ok.
Je sais pas si tu l'as déjà lu ou pas.
Non, mais j'ai un...
Nicolas Mathieu qui a... Je sais pas si t'avais lu son prix Goncourt qu'il a eu il y a quelques années pour Nos enfants après eux, que je te conseille aussi, qui a un Goncourt qui est génial. Là, il raconte l'histoire de deux quarantenaires.
Ouais.
Quarantenaire, ouais, ça se dit quarantenaire. Deux quarantenaires qui vivent dans une ville en province, en France. Et un peu comme dans Nos enfants après eux, qu'il avait déjà écrit, c'est le portrait vraiment d'une France qu'on n'a pas l'habitude de montrer, je trouve. Et ce qui est génial avec Nicolas Mathieu, c'est qu'il a, une écriture qui est vraiment, je trouve, limpide. Et il te raconte finalement... le rien, la vie quotidienne, dans tout ce qu'elle a vraiment de plus banal, mais il en fait quelque chose de génial. Vraiment, qui moi me porte en tout cas, je trouve.
Ouais.
Et voilà, le destin de ces deux personnes-là, et ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, et ça rend un livre qui est vraiment génial.
Bah merci, mais c'est super d'offrir les livres.
Mathieu, et j'espère que ça va te plaire.
Bah écoute, c'est super, et puis c'est un titre de chanson de Michel Sardou.
Ouais.
Je pense que t'as fait un peu exprès.
Non. Mais je suis content que tu fasses le lien. C'est pour voir si t'étais concentré.
Ah, je suis bien. Concentrée. Je suis concentrée. Non, mais ça me fait très plaisir.
Connemara, il y a un lien avec Doumaudi parce qu'il parle de la jeunesse des personnages, comment ils sont bercés par une époque. Des petits trucs de rien du tout, mais qui, je trouve, sont vachement reliés à nous tous. Quoi. Donc,
okay.
Voilà. J'espère que ça va
merci.
Te plaire.
Merci beaucoup.
Et puis, il faut lire ton voyage au cœur de mon adolescence, les Doumaudi de Clou.
Ouais, faut le lire.
Si,
ouais.
Faut le lire. Si, ça fait du bien, c'est bien. Merci beaucoup, Clou.
Merci, Edouard.
À bientôt.
À bientôt.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a plu. Notez dans vos agendas, Doumaudi, le recueil de poèmes écrits et illustrés par Clou, est disponible le 26 avril aux éditions Rajo. Perds pas ma page est disponible tous les mardis sur toutes les plateformes, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode et découvrir plein de nouveaux artistes et de nouvelles lectures. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur les comptes Instagram et Twitter de Perds pas ma page pour me donner vos impressions et suggestions d'invités ou de lectures. Merci d'ailleurs à tous ceux qui continuent de m'envoyer leurs encouragements, ça me fait chaud au cœur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et d'ici là, très bonne lecture.